Oui, bonjour. Voilà, je voudrais m'excuser parce que l'année dernière, je suis parti en voyage et ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables français et j'en suis vraiment désolé. Je voudrais aussi m'excuser parce qu'il y a un mois, je suis parti manger au restaurant avec des amis et j'ai fait payer la facture par le gouvernement français. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Et je voudrais aussi m'excuser parce qu'il y a une semaine, je suis parti en vacances avec ma famille et c'est le gouvernement français, donc vous, mes concitoyens qui m'avez élu, qui avez payé, j'en suis vraiment désolé. Et surtout, je voudrais m'excuser parce que la semaine prochaine, je pars à un congrès en Californie et je voudrais prendre un jet privé. Je tiens à m'excuser avant parce que j'aurai pas le temps de m'excuser après. Je pense que vous m'avez tous compris. À bientôt. Au revoir. Merci et je m'excuse encore.
Oui, salut Daniel. Ouais, j'appelle de Guyane, Guyane française. Je voudrais te dire que notre département français d'Amérique du Sud sera hyper médiatisé d'ici quelques jours, en début de semaine, avec la visite de notre cher président et aussi de sa suite. Donc notre président vient en Guyane avec trois avions. Eh oui, j'espère que le ministre Estrosi n'oubliera pas cette fois-ci d'en prendre un des trois. Sinon, ça va encore nous coûter 138 000 euros. Bon ben, je voudrais te dire salut et bon courage pour tout ce que tu fais. Et nous sommes nombreux, les AMG de Guyane. Allez, c'était Jean, j'en ai marre.
Je voudrais vous faire part d'un entretien avec un grand poète français qui dit, en parlant du nouveau président, depuis des mois, il s'étale, il a harangué, triomphé, donné des bals, dansé, régné, paradé et fait la roue. Il a réussi. Il en résulte que les apothéoses ne lui manquent pas. Des panégyristes, il en a plus que trageant. Une chose me frappe pourtant, c'est que dans toutes les qualités qu'on lui reconnaît, dans tous les éloges qu'on lui adresse, il n'y a pas un mot qui sorte de ceci. Habileté, sang-froid, audace, adresse, affaires admirablement préparées, conduite, instant bien choisi, secret bien gardé, mesures bien prises. Fausse clé bien faite, tout est là. Il ne reste pas un moment tranquille. Il sent autour de lui avec effroi la solitude et les ténèbres. Ceux qui ont peur la nuit chantent, lui il remue. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète. De qui s'agit-il? Le poète Victor Hugo, le président Napoléon III. Un peu plus loin, on se demande comment a-t-il fait? On décompose l'aventure et l'aventurier. On ne trouve au fond de l'homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l'argent. Faites des affaires, gobergez-vous, prenez du ventre. Il n'est plus question d'être un grand peuple, d'être une nation libre, d'être un foyer lumineux. La France n'y voit plus clair. Voilà un succès. Un peu plus loin encore, il a pour lui désormais l'argent, l'agio, la banque, la bourse, le comptoir, le coffre-fort et tous les hommes qui passent si facilement d'un bord à l'autre quand il n'y a à enjamber que la honte, etc., etc. Bonne journée à tous. Je voudrais vous faire part d'un entretien avec un grand poète français qui dit, en parlant du nouveau président, depuis des mois, il s'étale, il a harangué, triomphé, donné des bals, dansé, régné, paradé et fait la roue. Il a réussi. Il en résulte que les apothéoses ne lui manquent pas. Des panégyristes, il en a plus que trageant. Une chose me frappe pourtant, c'est que dans toutes les qualités qu'on lui reconnaît, dans tous les éloges qu'on lui adresse, il n'y a pas un mot qui sorte de ceci. Habileté, sang-froid, audace, adresse, affaires admirablement préparées, conduite, instant bien choisi, secret bien gardé, mesures bien prises. Fausse clé bien faite, tout est là. Il ne reste pas un moment tranquille. Il sent autour de lui avec effroi la solitude et les ténèbres. Ceux qui ont peur la nuit chantent, lui il remue. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète. De qui s'agit-il? Le poète Victor Hugo, le président Napoléon III. Un peu plus loin, on se demande comment a-t-il fait? On décompose l'aventure et l'aventurier. On ne trouve au fond de l'homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l'argent. Faites des affaires, gobergez-vous, prenez du ventre. Il n'est plus question d'être un grand peuple, d'être une nation libre, d'être un foyer lumineux. La France n'y voit plus clair. Voilà un succès. Un peu plus loin encore, il a pour lui désormais l'argent, l'agio, la banque, la bourse, le comptoir, le coffre-fort et tous les hommes qui passent si facilement d'un bord à l'autre quand il n'y a à enjamber que la honte, etc., etc. Bonne journée à tous.
Voilà, c'est fichu. C'est cuit pour la démocratie. Les Français voulaient à 59% un référendum sur l'Europe et un président élu à 53% des suffrages en a décidé autrement. Depuis le 4 février, où nous étions devant Versailles, contenus par les CRS, nous savons que les simagrées du PS et les rodomontades de l'UMP auront eu raison du peuple. Les nombreuses pétitions sont restées lettre morte, les actions auprès des parlementaires n'auront rien changé, et les menaces de s'en souvenir au municipal seront-elles effectives? Alors, quel recours avons-nous aujourd'hui? Porter plainte. La plainte collective auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français prend de l'ampleur, doucement, malgré un silence médiatique férocement entretenu. Cette plainte, émanant du site 29mai.eu, est la seule façon, l'unique façon qu'il nous reste de sanctionner ce qui vient de se passer dans une quasi-indifférence générale et qui, d'après Étienne Chouard, est un vrai viol politique. Venez conforter le rapport de force devant la Cour. Venez déposer une requête individuellement devant le greffe de Strasbourg et ensuite donnez pouvoir à l'avocat de vous représenter collectivement devant la Cour avec nous tous. www.29mai.eu. Nous devons être nombreux, que la Cour prenne l'ampleur du crime politique qui se joue en ce moment. Merci. À bientôt.
Bonjour à tous. En tant qu'érémiste, j'avais fait une demande pour reprendre des cours. Eh bien, ça y est, j'ai reçu ma réponse. Je rentre à Sciences Po prochainement. Et après, quand je serai président, je vous prie de croire que les choses vont enfin changer. Fini les privilèges, fini la corruption, fini les détournements de fonds publics, fini les lobbies, entre autres industriels, qui polluent la planète. Fini les parachutes dorés, les bourgeois et les nantis vont restituer l'argent volé, les châteaux trop grands pour eux et dans lesquels bien souvent ils s'ennuient. Fini aussi, j'en parlerai avec le pape, d'accorder dans les confessionnaux le pardon systématique de tous les péchés. Cela donne bonne conscience et on se rend bien compte que finalement ce n'est pas bon. Nettoyage au Karcher de la racaille en col blanc qui ment et vole le peuple à des fins personnelles. Des salaires corrects et une justice égale pour tous. Nous vivrons enfin dans un véritable jardin d'Adonis où la liberté, l'égalité et la fraternité régneront enfin. Mais non, que ce que j'ai inquiété se rassure. Je n'ai pas été reçu à Sciences Po. On m'a répondu que je n'avais pas le niveau requis et que ce programme que je leur avais soumis était utopique. Et pour ceux qui y ont cru, ben désolé. Hein. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille à l'NPE. Et avec un peu de chance, il y aura peut-être une place de trader à prendre à la Société Générale. C'était Philippe.
Comment? Oui, oui, chérie, je descends la poubelle en partant.
Allez, je vous laisse. Hein.
Bonsoir. J'écoutais les informations là et donc il est question de donner un nom et un enterrement à quelque chose qui pèserait 50 grammes, 20 grammes. Je voudrais savoir comment on va appeler tous les spermatozoïdes qui vont partir quand un mec va se masturber. Au revoir.
Parfois quand j'entends vos messages, je suis inquiet. Je suis inquiet quand j'entends des messages de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus talentueux. Et si les auditeurs de la Basilici avaient le projet de prendre le pouvoir sur l'émission? Hein? Doucement, petit à petit, gentil, de plus en plus de messages, de plus en plus de qualité, et puis un beau jour, il n'y a plus d'émission du tout, il n'y a plus que des messages, c'est-à-dire plus que des auditeurs, et nous, on n'a plus de boulot. Alors ne croyez pas ça, on va tenir bon, on va tenir ferme avec Christophe, avec Charlotte et toute l'équipe, ne croyez surtout pas que vous allez réussir à prendre le pouvoir sur la base, si j'y suis, les messages resteront à la portion congrue. Continuez d'essayer, continuez de pousser, mais on est là, face à vous, et on tient bon. Je plaisante, bien évidemment, même si aujourd'hui, c'est qu'à moitié rigolo, ce qu'on va faire, mais passionnant, passionnant. L'histoire de l'insécurité, l'histoire de ce mot insécurité, qu'on a abordé hier avec le sociologue chercheur Laurent Bonelli, qui publie un bouquin qui s'intitule « La France a peur », vous vous souvenez, Roger Giquel, « La France a peur », et qui nous raconte comment ce mot insécurité a peu à peu, au cours des temps, au cours des 25 dernières années, masqué et remplacé la la conscience sociale, les luttes sociales et la vision sociale de nos sociétés. Aujourd'hui, comment cela serait-il possible sans les médias? Eh bien, on va avoir quelques éclairages. Aujourd'hui, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37, mais je ne sais pas si je vais vous donner encore ce numéro très longtemps.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. C'est un Gérard, le papy écolo en colère, qui vous parle en deuil, parce qu'aujourd'hui la démocratie est morte. Comme l'écrit ce matin le Libération, les sénateurs UMP taillent un délit sur mesure aux faucheurs. C'est-à-dire que ce n'est plus un délit de contaminer les champs de tous ceux qui vont devoir mettre la clé sous la porte, parce que contaminés, ils seront déclassés. Et non, les OGM, de fait, on le sait aujourd'hui, malgré les promesses, seront autorisés. J'ai envie de dire à Monsieur Borloo, vous êtes un voyou, Monsieur Borloo, parce que vous avez menti aux Français. Et j'ai envie de dire à Madame Kokusko-Morizet, Madame Kokusko-Morizet, vous parlez très bien. Vous avez su ce matin botter en touche en Inter. J'ai honte pour tout ça. C'est un peu révoltant. La démocratie est morte en France. Ce sont les copains de Monsieur Sarkozy qui règnent en maître en France. Et j'ai honte. Au revoir.
Salut Daniel, salut tout le monde. C'est Jean-Claude de Bretagne, à Plougomelen. Je viens de voir que Coco Pelli a été condamné par ces grands dictateurs semenciers qui veulent mettre la main mise sur l'ensemble de la biodiversité et en l'occurrence de toutes nos plantes qu'on peut mettre dans nos petits jardins. Ils sont condamnés à un peu plus de 20 000 euros. Bravo, bravo. Ils espèrent ainsi fermer cette association là qui défend cette biodiversité et surtout à ces grands semenciers qui veulent avoir la main mise sur tout. J'aimerais savoir, Daniel, et puis si quelqu'un peut me répondre, si Coco Pelli a mis en place un petit système où on pourrait leur envoyer 10, 15, 20 euros pour les aider à payer cette amende. Il n'y en a pas besoin d'être nombreux, hein, peut-être 1000, 1500, 2000. Et ça permettrait en fait qu'ils puissent payer cette amende-là, je pense, et surtout de permettre à cette association qui nous défend à travers cette biodiversité, qui nous défend en nous permettant de planter ce qu'on veut dans nos jardins, de survivre. Et surtout, ça nous permettrait, désolé de l'expression, mais d'emmerder ces grands semenciers. Voilà, si quelqu'un a des infos à me donner, et puis, continuons la lutte. Salut.
La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. La France a peur. Sac à main arraché, vitres des commerçants brisées, voitures volées et brûlées. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert et Laurent Bonelli. La France a peur.
Flight number 2. Arriving.
L'hiver, d'habitude, est calme dans les huppes. Mais cette année, la tension a déjà commencé à monter.
La France a peur. Chaque mère, chaque père, a la gorge nouée. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois.
Insécurité, on va passer une heure autour d'un mot, insécurité. Nous, c'est seulement une heure, mais Laurent Bonelli, c'est des années et des années qu'il tourne autour de ce mot insécurité au point d'en faire un livre qui s'intitule « La France a peur », hommage à l'immortel Roger Gicquel, avec pour sous-titre « Une histoire sociale de l'insécurité ». Et c'est vrai qu'au cours des 25 dernières années, l'insécurité est partout. C'est devenu le problème numéro un dans le monde politique, les pouvoirs publics, les médias, le café du commerce. Tout le monde parle de cette insécurité, avec évidemment, dans les périodes électorales, une compétition et un enjeu entre les différents protagonistes, la droite et la gauche, et avec l'idée que la sécurité, c'est un droit. Mais si on avait commencé par demander aux Français ce qu'ils entendent par insécurité. Le mot insécurité, c'est quoi pour vous ? On pourrait s'attendre à des réponses du genre « Eh ben, l'insécurité, c'est la précarité de l'emploi, c'est l'avenir de mes enfants, c'est j'ai peur de la maladie, j'ai peur pour ma retraite, etc. » Ou bien d'autres peurs qui hantent l'histoire, depuis la bête de Gévaudan jusqu'aux épidémies, etc. Mais, quand on dit insécurité, on évoque tout de suite, sans avoir besoin de le dire, les quartiers, hein, les quartiers sensibles. Non pas les quartiers dangereux d'autrefois, les quartiers populaires du temps des Apaches, des Blousons Noirs ou des Loubards, évidemment pas les quartiers des Barons Voleurs ni des Cols Blancs genre Société Générale, mais ça évoque irrémédiablement la racaille. Qui dit insécurité, dit racaille.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein.
C'est-à-dire le jeune beurre avec sa casquette et le jeune black avec sa capuche. Et constitue deux stigmatisations, l'une sociale et l'autre raciale, qui se mêlent. Et ça, Laurent Bonelli va nous démêler tout ça. Mais en tous les cas, ce qu'il faut plus faire, si vous voulez pas avoir l'air ringard, c'est d'essayer de comprendre les causes de la délinquance, de la violence, etc. Ça, c'est l'excuse sociologique, et essayer d'examiner les causes, de les trouver, fait de vous immédiatement un suspect, un gauchiste, ou pire encore, un sociologue. Parce que on sait, et Nicolas Sarkozy l'a dit, que le traitement social de l'insécurité, ça n'a pas abouti.
Alors qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans ? On a envoyé les jeunes en vacances, on a fait un traitement social de tout ça. Je dis pas que c'était inutile, mais ça n'a pas marché.
Aussi faut-il aujourd'hui un traitement beaucoup plus dur de l'insécurité. Et alors, la gauche et la droite ont eu longtemps des regards différents sur ces phénomènes sociaux très anciens. La droite, évidemment, tout naturellement, était du côté de la sécurité, du côté de l'ordre pour protéger les conservateurs qu'elle représente. Et la gauche était évidemment beaucoup plus vers les vulnérables, vers les dominés, on va dire. Or, ce à quoi on a assisté, c'est ce que vous démontrez dans ce bouquin, c'est que il y a eu peu à peu une convergence des points de vue par rapport à ce phénomène qui peut se réduire à ce mot insécurité.
Alors en effet, je dirais, il y a une convergence, il y a deux choses, il y a au moins deux choses qu'on peut voir, c'est il y a un effacement des différences idéologiques gauche-droite sur cette question-là, ce qui est assez surprenant, ce qui ne manque pas de surprendre, je dirais, tant le citoyen que le chercheur. Et la deuxième chose, en même temps, c'est l'inflation du thème de l'insécurité, qui devient un thème aujourd'hui utilisé pour parler de toute une série de problèmes sociaux fondamentalement différents. On va parler de chômage des jeunes, on parlera d'insécurité. On va parler de problèmes à l'école, on va parler d'insécurité. On va parler de problèmes d'un quartier, on va parler d'insécurité. Et insécurité étant, la plupart du temps, résumée effectivement à l'image dont vous en avez donné, ce jeune ou ces jeunes des quartiers populaires, je dirais, qui font aujourd'hui peur. Et je crois qu'on pourrait le dire autrement, c'est-à-dire que l'insécurité n'est pas un problème. L'insécurité, ce n'est pas un problème tel qu'on pourrait le croire actuellement. L'insécurité est une solution. Donc, c'est plutôt une série de solutions à des problèmes, alors des problèmes des hommes politiques liés sur la question de l'abstention. On y reviendra. Une solution pour une quête d'audience des médias, une solution pour traiter les problèmes scolaires générés par la généralisation scolaire et donc l'école qui ne sait pas quoi faire d'un certain nombre de jeunes. Voilà, c'est ça. L'insécurité, ça peut se penser, justement, non pas comme un problème, mais comme un faisceau de solutions.
Et voilà une illustration 1997 de la convergence de la gauche et de la droite, ou plutôt de la droite et de la gauche.
La France a peur.
Un citoyen dont la sécurité n'est pas assurée ne peut exercer son droit à la liberté. Le principe républicain de l'égalité entre les citoyens ne peut ignorer ce droit à la sécurité. Tout citoyen, toute personne vivant sur le territoire de la République ont droit à la sécurité. Il ne peut y avoir des quartiers sûrs et des zones de non-droit. Il en va de la solidité du lien social. Le gouvernement a la ferme volonté d'assurer l'égalité des citoyens devant le droit à la sécurité.
Et hier, à Villepinte, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le retour de l'enseignement de la morale à l'école. Les professeurs de philosophie seront chargés d'enseigner la citoyenneté aux élèves de première.
Ça, c'est le discours de Villepinte de 1997. C'est Lionel Jospin qui parle, et ça a un petit parfum d'ordre moral, disons.
Alors, le colloque de Villepinte, 1997, est véritablement marque et l'officialisation d'une transformation de la doctrine de la gauche en matière de sécurité. Alors, on a voyé qu'on a un renversement de perspective absolue. On ne parle plus d'inégalités économiques.
On ne parle plus d'inégalités sociales.
Il ne s'agit plus d'en parler. La principale inégalité contre laquelle il faut lutter, c'est l'inégalité vis-à-vis de la sécurité.
Les plantes vertes en plastique, c'est la science au service de l'homme, de son bien-être. Le prix de la sécurité, dommage qu'on ne puisse pas les faire en salade, ça reste encore indigeste. Je me chauffe au bois inifugé, le tout sécuritaire, ça a du bon. La preuve, je me chauffe au bois inifugé, le tout sécuritaire, ça a du bon. La preuve.
Tout a commencé ici, à la sortie du RER. Trois bandes rivales de Chanteloup-les-Vignes, les Mureaux et Mantes-la-Jolie surgissent sur le parvis de la Défense. Ils entendent régler leur compte entre eux. Très vite, l'expédition tourne à l'affrontement. La vision de ces bandes cagoulées, armées de couteaux de boucher et de battes de baseball, a provoqué un choc. Du coup, tous les commerçants ont fermé leurs rideaux.
Ces bandes, malheureusement, elles correspondent peut-être à une évolution à l'américaine du système français. C'est-à-dire qu'elles ne croient plus qu'en elles, les institutions publiques sont complètement illégitimes.
À quelques jours de la publication des mauvais chiffres de la délinquance, ces nouveaux incidents risquent d'alimenter un peu plus le débat politique sur l'insécurité.
Alors, débat politique sur l'insécurité, là on y est, hein, on a les bandes cagoulées, couteau de boucher, batte de baseball, une évolution à l'américaine. Là, c'est le poids des mots. Hein. C'est vraiment le poids des mots et le choc des photos. Et c'est le 28 janvier 2001. On a des municipales au printemps 2001. On a également, enfin, on a la campagne électorale en perspective. Laurent Bonelli.
Finalement, les mesures qui sont prises après Villepinte par le gouvernement socialiste prennent un peu de cours, finalement, l'opposition de droite, qui finalement n'a pas grand-chose à redire à toutes les mesures qui sont prises, puisque ils sont d'accord. Et on a un très étonnant silence de toute l'opposition de droite, je dirais, à partir de 1997 jusque en janvier 2001, c'est-à-dire, ou à quelques mois d'un scrutin électoral d'importance, les élections municipales, l'opposition politique se réveille et fait de la politique, c'est-à-dire essaie de doubler, pourrait-on dire, le gouvernement socialiste sur sa droite en proposant des mesures plus dures, je dirais, en matière de sécurité. Alors que, de 97 à 2001, l'opposition était surtout une opposition de gauche, des syndicats de magistrats, des avocats qui disaient, attention, tout ça quand même, c'est un peu sécuritaire, tout ça. Là, on a les ultras de droite qui reviennent en disant bah, finalement Jospin n'a rien fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est, on entend dans le son justement, ces événements arrivent à 2-3 jours de la publication des chiffres annuels de la délinquance, et alors, qui auront effectivement augmenté. On a déjà parlé des chiffres, et donc l'opposition de droite a dit ah ben regardez, Jospin finalement c'est lamentable, il sait pas faire en la matière, c'est scandaleux. Donc de ce point de vue-là, cet événement tombe, je dirais, à pic. Il tombe à pic, il tombe d'autant plus à pic qu'il est parfaitement en résonance avec les logiques ordinaires des médias. C'est très amusant, effectivement, le Figaro titrera par exemple « 300 délinquants ivres de haine déferlent sur la ville ». Bon, on a une dramatisation des faits. À l'époque, je me souviens des amis qui m'ont appelé des États-Unis, qui, c'était assez amusant parce qu'ils m'ont dit « Tu sais, 300 personnes qui s'affrontent pendant 2 heures avec un armement impressionnant et le résultat des courses étant un blessé léger, et c'est pas, ils sont pas très bons, vos gars. » Alors, effectivement, non, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait deux groupes assez importants, mais les altercations ont été très rapides et n'ont concerné que quelques individus. Bon. Mais, je dirais, la logique de dramatisation des médias a fait le reste, et elle l'a fait d'autant plus qu'on était dans ce contexte politique dont je suis en train de parler. C'est-à-dire qu'une des éléments sans doute les plus marquants de la conversion du Parti Socialiste aux questions de sécurité et la conversion du gouvernement de Lionel Jospin au thème de la sécurité, c'est que ça fait sauter des digues, pourrait-on dire, dans les médias. Jusque-là, la question de la délinquance n'était traitée dans les médias que très souvent dans la presse d'extrême droite, dans ce qu'on appelait la presse populaire, et cela depuis le 19e siècle. C'est quelque chose, on vendait du papier avec des faits divers, ça c'était quelque chose.
Le sang à la une.
Le sang à la une, canard sanglant, voilà. Mais là, des digues ont sauté, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de la presse d'extrême droite ou de la presse populaire, mais de la grande presse, la presse généraliste, la presse dite de qualité. Je dirais quand Le Monde, par exemple, en août 2001, fait des affichettes pour les kiosques titrant « délinquance alerte », vous voyez qu'on voit effectivement que des digues, de ce point de vue-là, ont sauté. Et ce n'est pas un hasard si on va voir fleurir tout un tas d'émissions politiques animé par Arlette Chabot, par Christine Ocrinthe, par les grandes journalistes politiques, sur les thèmes de l'insécurité.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel remède à l'insécurité ? Première préoccupation, souvent maintenant même, devant le chômage. Ce soir, avec 4 élus, 4 maires de ville, et puis tous ceux qui travaillent avec eux dans les villes et dans les quartiers, qu'ils soient magistrats, policiers, éducateurs ou proviseurs de lycée. Bonsoir.
Bonsoir.
La délinquance des jeunes. Nous interrogerons aussi la ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Les policiers, je le disais, sont un peu écœurés aujourd'hui et les magistrats, eux, s'interrogent désormais sur ce qu'il convient de faire.
Les quartiers de la peur, à mes côtés Caroline Cailleux, les maires RPR de Beauvais, François Haut, de l'Institut de Criminologie de Paris, Christophe Tirant et policier, Alain Kerr, qui évoquera avec nous les questions relatives aux transports en commun. Yazid Kerfi est consultant en violence urbaine.
Les Chabot, par exemple, va animer, je dirais, près de 6-7 émissions consacrées au thème de l'insécurité sur cette période-là.
Avec une brochette de spécialistes. Il faut nous parler un petit peu de ces spécialistes. Curieusement, on ne vous voit jamais, d'ailleurs. Au passage, je note, il n'y a que là-bas, j'y suis, qui vous invite.
Même pas, les Chabot m'avait invité.
Ah bon ?
Plusieurs fois, 3 fois.
Et alors ?
Non.
Bon.
Non.
Mais il y en a d'autres qui acceptent.
Il y en a plein qui acceptent. Alors justement, il y en a plein. Je me suis amusé à essayer de regarder, de dépouiller l'intégralité des émissions consacrées à l'insécurité entre 1995 et 2002, en regardant qui étaient les invités. Alors tout ça, ça porte sur un peu plus d'une 50 émissions. Et si on regarde qui sont les invités sur les plateaux, c'est très intéressant, puisque 75% des invités sont soit des hommes politiques, soit des policiers, soit des experts, donc un certain nombre de mes confrères. Donc 75% contre 2% de jeunes qui ont eu affaire à la police ou à la justice, contre 7% de gens appartenant aux institutions sociales ou éducatives. Oui, c'est-à-dire finalement, alors si vous regardez dans l'intégralité de l'ensemble des émissions, vous apercevez que c'est quand même très marqué les gens que l'on voit. Si on regarde les reportages, c'est exactement la même chose. Vous apercevez que les reportages mettent en scène essentiellement l'action des forces de police.
Dans le quartier Transval de la Haye, détenteur du record de criminalité de la ville, les autorités ont créé en 1989 une police de proximité. Sizi Lothier opère dans ce quartier déshérité, composé à 81% d'immigrés de 101 nationalités.
Et bon, je me suis amusé à faire évaluer un certain nombre de juges indépendants la tonalité des reportages. Vous apercevez que 80% des reportages sont alarmistes.
Les tests sont réalisés avec des armes, parfois lourdes, de plus en plus utilisées contre les policiers.
On commence à en avoir assez facilement. Auparavant, c'était un peu les gros braqueurs qui avaient ça. Ça commence à se vulgariser, on va dire. Donc nous, on en tient compte, on met des protections adaptées.
C'est-à-dire présente l'action violente de la police, des poursuites avec des bacs, des brigades anticriminalité, ce genre de choses.
Mais quelle est la réalité? Parce que ça, c'est votre boulot de nous dire quelle est la réalité de cette délinquance. Ça monte, ça descend, c'est stable.
Non,
ça n'existe pas.
Ah non, ça existe. Il se passe des choses, bien sûr. Qu'il y a des délits, il y a des crimes, il y a des délits, il y a tout un tas de choses. Un des effets du discours médiatique et du discours politique sur cette question-là, ça va être de relier ensemble des faits relativement indépendants. Et effectivement, de ce point de vue-là, les dispositifs médiatiques fonctionnent bien, puisque, on y reviendra pendant la campagne de 2002, vous apercevez que relier ensemble tout un tas de faits divers qui sont indépendants et qui n'ont absolument rien à voir entre eux donne un effet. Évidemment, de peur. De ce point de vue, on génère de la peur sur un certain nombre de populations, sur un certain nombre de quartiers, sur un certain nombre de faits. Mais l'idée, la délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, par exemple...
On médite sur un chiffre, celui de la criminalité. Les clignotants virent au rouge.
N'est absolument étayé par rien.
Les clignotants virent au rouge.
Ce qui est très intéressant quand on regarde effectivement toutes ces émissions, c'est qu'en plus, ces émissions sélectionnent un certain nombre de gens. On disait tout à l'heure, on n'est pas invité. Ben, on regarde, et si on regarde qui sont les gens invités, c'est... Qu'est-ce que c'est un bon invité pour une émission de...
Un bon client.
Qu'est-ce que c'est un bon client? Un bon client, c'est quoi? On va le voir, c'est des policiers, par exemple, ou des magistrats, mais qui ne sont pas corporatistes. C'est-à-dire le syndicaliste policier qui dit « on veut plus de moyens », va pas être un bon client. Alors les experts, c'est la même chose. Il faudra être capable de parler dans des formats très simples. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là, genre depuis 2 heures, où on parle, on essaie d'expliquer des choses, tout ça, ça n'a pas sa place, je dirais, dans un format, dans un dispositif télé de ce truc-là. Il faut être capable de dire... La tolérance zéro aux États-Unis, ça marche. Il faut être capable de dire des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents.
Nadia Chelgoun, vous êtes commissaire à Lyon, vous avez longtemps travaillé à Vaux-en-Velin. Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir aussi à intervenir sur le pôle répression?
Non, je crois que la police de proximité, ce n'est pas que la prévention. C'est la prévention, c'est la répression et le rappel à la loi quand c'est nécessaire. C'est également la dissuasion par une présence visible de nombreux policiers. Et c'est essayer d'établir un contact permanent avec la population, ne serait-ce que par une meilleure écoute. Une meilleure information.
Et on retrouve, ce n'est pas un hasard, si on retrouve dans ces invités des gens comme Alain Bauer, par exemple, qui sont des marchands de peur, qui sont des marchands de sécurité, c'est-à-dire des gens qui prônent ou qui proposent des situations parfaitement apocalyptiques et qui vendent des solutions pour y répondre. Business lucratif, sans doute, mieux que de vendre des livres à la découverte, j'imagine.
Aux éditions de la découverte, ça marche bien.
On verra. Bref, c'est un business assez, je dirais, assez lucratif, et on va retrouver effectivement pléthore de ce genre d'experts gérés devant les caméras.
Ça peut expliquer, au passage, ça peut quand même expliquer le manque d'hospitalité des jeunes des quartiers quand des journalistes ou des reporters viennent avec des caméras, quand certains soirs ou des voitures brûlent ou pas d'ailleurs, l'accueil n'est pas toujours chaleureux et un certain nombre de journalistes et de reporters s'en plaignent. On se demande bien pourquoi, mais là on a une réponse,
On a peut-être un début de réponse, c'est effectivement très juste, et quand on voit, on s'aperçoit qu'un certain nombre de reportages tournés dans les quartiers sont tournés, je dirais, derrière l'épaule de la police.
Ah oui.
Ce qui est un angle de vue très particulier, va-t-on dire, au sens propre et figuré. Bon.
Il y a assimilation, d'ailleurs, dans ces quartiers, il y a assimilation du flic et du journaliste. C'est le même côté, quoi. C'est le même.
Mais même quand on s'aperçoit, quand on regarde qui sont les jeunes, entre guillemets, invités sur les plateaux de télévision, c'est très intéressant. C'est que là aussi, on a des jeunes qui sont des jeunes très conformes aux stéréotypes médiatiques dominants. Qu'est-ce qu'on retrouve? Va-t-on retrouver des gens du mouvement de l'immigration et des banlieues qui vont dire « police partout, justice nulle part » Non, on en retrouve assez peu, il faut bien le dire, on n'en retrouve pas d'ailleurs.
Yazid Karfi est consultant en violence urbaine, ancien délinquant, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Le titre de votre livre, Repris de justesse.
Par contre, on va retrouver des jeunes condamnant la violence en général.
Oui, qui cherchent, qui la plupart du temps n'analysent pas les causes, ne veulent là non plus pas s'attarder sur les causes qui sont connues, qui sont évidentes, qui sont toujours les mêmes, qui sont l'emploi, qui sont l'habitat, qui sont les problèmes d'intégration, etc. Vont aller sur, c'est si tous les gars du monde voulaient se donner la main, quoi, sur un peu soyons chouettes les gars, dynamiques, etc. Ce qui n'est pas en soi condamnable, bien évidemment, mais qui, à l'évidence, ne suffit pas.
Tout à fait. fait. Alors, je crois que c'est très important de s'intéresser aux médias, parce que les médias ne font pas l'opinion. Enfin, ils ne font pas l'opinion, en tout cas, ils y contribuent, mais ils ne la font pas à eux tout seuls. Mais, je dirais, ils ont des effets. Et sur les questions d'insécurité, ils ont eu des effets très forts. Alors, ils ont eu des effets très forts, d'abord en diffusant un certain nombre de lieux communs, de poncifs, de clichés, comme la tolérance zéro, ça marche, la prison, ça marche, la délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas étayées, mais qui ont été tellement ressassées dans toutes les émissions, dans tous les journaux, que finalement, c'est devenu des vérités incontestables.
C'est ça, quand on martèle, répéter ces vérités.
Il y a une recrudescence de délinquance au niveau des mineurs.
C'est des jeunes maintenant qui ont 10, 12 ans, voire quelquefois moins.
Ils ont envie des Nike et tout, ils n'ont pas de boulot, alors qu'est-ce qu'ils font? Là, là, ils ont des Nike, tu vois.
Je suis passé dans le métro, il y en avait un qui fumait un joint, l'autre qui m'a fait chier.
De toute façon, avec ces jeunes-là, il y a une chose à faire, ce serait un petit peu de les dresser, enfin, ce serait de les mettre à l'écart.
Les punir, la punition, ça fait pas de mal.
Par exemple, à New York, dès qu'un jeune fait quoi que ce soit qui peut être répréhensible, par exemple même pousser quelqu'un dans la rue, là-bas, il ne laisse pas ça passer.
Deuxième chose, c'est les médias contribuent à homogénéiser des situations très différentes. C'est-à-dire aujourd'hui, quartier populaire, on se dit banlieue dégradée, etc. Non, il y a une immense variété de quartiers populaires différents, avec des histoires différentes, avec des situations sociales différentes, avec des situations locales différentes. Mais ben, on contribue, l'idée aujourd'hui, ce dont on parlait au début de cette émission, quand on parle de banlieue, on voit immédiatement une zone de non-droit, un grand ensemble dégradé, avec des jeunes barbares en bas. Donc, effectivement, donc, ils diffusent des clichés, ils homogénéisent des situations différentes, et ils consacrent des points de vue. Ils consacrent des points de vue, c'est des points de vue et des interlocuteurs. Arlette Chabot, par exemple, a une très très belle émission où elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces émissions se terminent toujours par cette dimension-là, mais enfin bon, qu'est-ce que vous proposez?
Concrètement quoi?
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça va donner, effectivement, le catalogue des solutions dans l'air du temps.
La prison est-elle une solution? Faut-il alourdir les peines qui visent les mineurs, notamment les plus jeunes? Comment aider, responsabiliser, sanctionner peut-être les parents responsables? Et puis enfin, nous nous interrogeons sur cette culture jeune, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire les films que les jeunes regardent.
Et on va voir, justement, disparaître parfaitement du paysage audiovisuel ou du paysage médiatique, tout un tas d'alternatives qui ont été déjà discrédité dans l'esprit de ces journalistes-là. C'est-à-dire qu'en cela, je dirais, ils ferment l'espace du pensable, l'espace du dicible, et ça a une véritable importance, notamment parce que, en raison des transformations du champ politique ces 20 dernières années, les médias ont une influence prépondérante sur les hommes politiques. Les hommes politiques sont parmi ceux qui croient le plus à ce qui se dit dans les médias.
C'est ça, c'est-à-dire que entre le 1er janvier et le 5 mai 2002, les journaux télévisés n'ont pas consacré moins de 18 766 sujets aux crimes, agressions sexuelles, braquages ou aux interventions des forces de police et de gendarmerie, soit 987 sujets par semaine. C'est costaud quand même.
C'est pas mal, hein ?
Ah, c'est pas mal. Et ça a préparé, évidemment, les élections du printemps 2002, dont on se souvient. Et il y aura l'affaire, sans doute la plus emblématique de cette période, c'est l'affaire de Papivoise. On se souvient de cette histoire.
Paul Voise est un miraculé. L'image est poignante.
À Orléans, un homme de 72 ans a été roué de coups par deux jeunes qui voulaient lui prendre de l'argent.
C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon.
Ben, le jeune voulait des sous. Et moi, j'en ai pas.
Ça s'est passé dans le quartier défavorisé de l'Argonne.
On attend des coups de fusil et tout. On vit ceux qui vivent ici.
Papivoise, comme on l'appelle dans son quartier.
Je vais aller voir ma maison.
On a brûlé votre maison, c'est ça.
Revenons maintenant sur ce drame d'Orléans où jeudi soir, un septuagénaire a été agressé.
Ça vous fait mal?
Alors là, on a Béatrice Schoenberg qui retrouve tout à fait les intonations du Roger Gicquel de 1976, La France a peur, qui donne, je rappelle, le titre de votre bouquin. Et là, on sent des confrères qui sont indignés, qui trouvent plus les mots ni le souffle pour décrire ce qui s'est passé. Or, on a beaucoup, beaucoup de doutes sur cette histoire qui surgit avant, deux jours avant le premier tour des élections d'avril 2002. Il faut savoir, maintenant les cartes sont retournées, que l'enquête dans l'agression de Papivoise n'a jamais débouché, c'est-à-dire que les jeunes qui ont été accusés ont été relaxés.
C'est Pierre Bourdieu qui disait le fait divers fait diversion. À deux jours d'un scrutin, qui est un scrutin présidentiel, c'est-à-dire où devraient s'affronter des projets de société différents, des modes d'évolution de la société différentes, des projets politiques, je dirais, on a une campagne qui est réduite, fondamentalement, à une série de faits divers, qui sont des faits divers dramatiques, et ça, il ne s'agit absolument pas de l'enlever, d'enlever quoi que ce soit à la douleur des victimes, mais je dirais qu'ils sont des faits qui sont déconnectés les uns des autres, qui n'ont rien en commun, et qui n'ont surtout, qui sont des faits qui existent de toute éternité, qui existeront sans doute, hélas, pendant de longues années encore, et qui n'ont surtout rien à voir avec une quelconque analyse de la société et avec une quelconque confrontation politique ou idéologique. Et c'est en ce sens-là, je crois, que la mise en scène de ce genre de ce genre de faits divers durant la campagne est véritablement important à noter. L'enquête par la suite, et c'est toujours le cas, très souvent le cas dans ces conditions, c'est que la temporalité journalistique d'un fait divers et la temporalité judiciaire pour le résoudre une affaire sont absolument pas les mêmes. Et peu importe, je dirais, pour les médias, que finalement, quelques semaines plus tard, on se soit aperçu que les gens qui avaient été jetés en pâture...
On a oublié. Il y a un effet d'annonce émotionnelle qui frappe comme un tatouage, comme ça, d'un seul coup. Et puis ensuite, la vérité peut venir, mais on s'en fout. Quoi. La vérité n'a pas d'importance.
Ça n'a pas d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est que c'était ce symbole.
Alors, qui est responsable de ça? Les médias ou le politique? Écoutez ce document.
Vos adversaires de gauche disent, oui, quand même, Jacques Chirac, il a servi un peu les idées de l'extrême droite en basant sa campagne sur la sécurité, sur le déclin de la France.
Mais, monsieur Mazerolle, il aurait fallu être tout à fait sourd pour ne pas entendre ce que disaient les Français. Moi, j'ai beaucoup voyagé avant la campagne, pendant la campagne. Je n'ai pas rencontré un Français, une Française, qui ne me dise à quel point son inquiétude était grande à l'égard de la montée de la violence, de l'insécurité. Vous savez, je regarde aussi, je vous le disais tout à l'heure, les journaux télévisés. Qu'est-ce que je vois depuis des mois? Tous les jours, ces actes de violence, de délinquance, de criminalité, c'est bien le reflet d'une certaine situation. Pas moi qui choisissais vos sujets.
Voilà, là on a Jacques Chirac, qui on découvre qu'il regarde la télé, et qu'il regarde par exemple Antenne 2, la chaîne sur laquelle à l'époque travaille Olivier Mazerolle, qui lui pose des questions très très insidieuses, et voilà, c'est-à-dire que Jacques Chirac regarde la télévision, ça l'inquiète beaucoup, parce qu'il voit une montée de la délinquance dans son poste, pas seulement, il faut être honnête, il a rencontré beaucoup de gens au cours de la campagne, et qui toutes lui ont dit, monsieur le président, l'insécurité. Ils n'ont eu qu'un seul mot. C'est assez formidable, c'est la poule et l'œuf.
C'est tout à fait ça. Jacques Chirac ou les hommes politiques ne s'intéressent pas à la sécurité pour la même raison que les médias. Alors, les médias s'y intéressent pour qu'il y ait des raisons d'audience, mais en même temps, l'intérêt des hommes politiques a fait sauter les digues qui permettent aux médias de qualité de s'y intéresser. Et les hommes politiques s'y intéressent pour des raisons qui ont à voir avec des raisons électorales, avec des raisons d'organisation interne, de problèmes de leurs élus locaux. Et c'est, je crois que c'est ça qui est assez fantastique, finalement, dans cette diffusion de l'insécurité comme catégorie d'analyse, c'est que ça devient un ça va de soi, quelque chose que plus personne ne discute, et que personne n'a voulu, je dirais, en tant que tel. C'est des raisons différentes qui ont amené cette convergence sur l'insécurité.
L'hiver, d'habitude, est calme dans les huppes. Mais cette année, la tension a déjà commencé à monter.
La France a peur. Chaque mère, chaque père a la gorge nouée. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois.
on en vient à penser un certain nombre de transformations des classes populaires. Ça, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire que les classes populaires sont véritablement laminées par 20 ans de politique libérale. C'est quelque chose de très fort. Et ça produit des effets très forts, je dirais, sur les jeunesses populaires, etc. Et cela, c'est pas forcément de la délinquance. Il y a des éléments de délinquance qui sont liés à cela, mais ce n'est pas la délinquance. La délinquance, c'est quelque chose de très vaste, c'est quelque chose de très flou, là, encore une fois, on ne sait pas vraiment. Mais toutes ces transformations des quartiers populaires, des familles populaires, vont être relues au travers de la question de l'insécurité, ou au travers de la question de ce sont des problèmes de délinquance, ce sont des problèmes d'insécurité. Et c'est ça, je pense, qui est très fort. C'est le coup de force, je crois qu'il est là. Quand Jacques Chirac dit, finalement, le principal problème, c'est de s'attaquer à ces questions de délinquance, et on résoudra l'ensemble des problèmes de notre société. C'est sans doute politiquement très commode, mais je me permets d'en douter.
Mais ça rejoint quand même un fantasme ancien, un constat ancien, classe laborieuse égale classe dangereuse. Alors là, c'est des classes qui, hélas, ne sont pas laborieuses, mais c'est des classes populaires quand même, qui voudraient bien être laborieuses, qui voudraient bien avoir du boulot, donc ça fait partie des classes laborieuses sans labeur, sans boulot, mais qui sont assimilées à des classes dangereuses. C'est le même mythe, c'est le même fantasme du dominé, du relégué qui menace.
Qui menace, puis qui menace plus de la même manière. C'est-à-dire que ce qu'on avait, la grande peur qu'on avait dans classe laborieuse et classe dangereuse, c'était finalement que ces classes laborieuses s'organisent et qu'elles deviennent dangereuses. Et ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que ces classes laborieuses, au fur et à mesure qu'elles s'organisent, elles deviennent de moins en moins dangereuses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les classes laborieuses ont des organes de représentation, des partis politiques, des syndicats, on les considère de moins en moins comme des classes dangereuses. Et je crois qu'il est quand même singulier de s'apercevoir que c'est au moment où se délitent toutes les formes d'organisation des classes populaires à partir du début des années 80, politiques, syndicales et autres, qu'elles redeviennent, miraculeusement, de nouvelles classes dangereuses.
Dangereuses sur le plan de la délinquance, mais pas forcément... Elles peuvent être dangereuses sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan de la prise du pouvoir ou du partage du pouvoir.
Elles ne le sont plus politiquement, mais c'est justement la condition de ça. C'est-à-dire que le discours sécuritaire, c'est aussi un discours qui prospère sur l'inorganisation aujourd'hui politique des classes populaires. Des organisations représentatives fortes des classes populaires ne permettraient pas, je dirais, le discours sécuritaire d'être le seul prisme d'analyse de leur réalité sociale. Lorsqu'on nous objecterait la précarité, la baisse du pouvoir d'achat, la précarité par rapport au logement, par rapport à l'emploi, par rapport à tout un tas de choses de cet ordre.
La mobilisation va changer, parce qu'il va y avoir plus de police de nuit, plus de police d'investigation, plus de police pour limiter l'immigration clandestine.
Les priorités de ce nouveau dispositif, la lutte contre les trafics de drogue et le proxénétisme, mais surtout la réduction de la délinquance des mineurs. Cela passe par exemple par une sanction des parents en cas d'absentéisme scolaire. Nicolas Sarkozy l'a répété encore aujourd'hui, il veut des résultats. Policiers et gendarmes disposeront donc d'importants moyens. La police judiciaire notamment, avec 1400 fonctionnaires supplémentaires et la mise en place de fichiers communs police-gendarmerie pour faciliter les enquêtes.
La France a peur.
Oui, la France a peur.
Voilà celui qu'on appellera Margaret Karcher. C'est, vous l'avez reconnu, Nicolas Sarkozy, le 29 mai 2002, avec un confrère qui a l'air assez satisfait quand même. Ça se sent dans sa voix. Des décisions qui sont prises, et ça, c'est la poigne.
Alors, la poigne.
C'est un homme qui en a.
La première parole de Sarkozy, quand il est nommé ministre de l'Intérieur, c'est « la peur va changer de camp ».
Voilà.
La sécurité, ça veut dire que la peur change de côté, et qu'elle n'est pas du côté de l'immense majorité des Français qui vont vivre tranquillement.
La peur change de camp.
Ferme.
La France a peur, mais ce n'est plus la même. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, Sarkozy va faire voter très rapidement la loi sur la sécurité intérieure, il va prendre toute une série, il va y avoir une espèce d'inflation absolument délirante de lois, de mesures, de circulaires. Mais, finalement, tout ce qui s'est développé durant les années 90, c'est-à-dire la répression accrue, je dirais des petits désordres, petites indisciplines, va trouver là un cadre législatif. La loi sur la sécurité intérieure va interdire la mendicité, va interdire la prostitution de rue, va pénaliser le squat de hall d'immeuble qui devient un délit passible de 3 750 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement.
Oui,
mais qui sont des mesures, très souvent, elles avaient été discutées. La loi sur les halls d'immeubles, par exemple, avait été discutée sous le gouvernement socialiste antérieur et in extremis rejetée. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, ce consensus très fort qu'on va voir, et d'ailleurs on a un consensus quand Sarkozy devient ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, dit s'il faut appuyer Sarkozy, je l'appuierai. Julien Drey dit je ne peux que souhaiter votre succès et je ferai tout ce que je peux qui est en bon pouvoir pour vous appuyer. Bon, on voit effectivement le consensus qui s'est développé auparavant. Et ce que je crois que c'est très important, et très important de rappeler, c'est que finalement, si la sécurité a pu prospérer dans le débat politique comme elle l'a fait pendant la campagne et ensuite, c'est également parce qu'il y a un consensus politique. Si la sécurité était restée un thème de droite, elle n'aurait jamais pu prendre l'ampleur qu'elle a prise durant la seconde moitié des années 90.
La France a peur. Oui, la France a peur et nous avons peur.
Je ne vois pas pourquoi le principe de la tolérance zéro, appliqué avec succès dans d'autres grandes démocraties de la nôtre, serait parfaitement adapté aux délinquants anglo-saxons et tout à fait inadaptable aux délinquants latins.
On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein ? Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein ?
Alors qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans ? On a envoyé les jeunes en vacances, on a fait un traitement social de tout ça. Je dis pas que c'était inutile, mais ça n'a pas marché.
Le traitement social n'a pas marché. Laurent Bonelli, vous avez tort.
Oui, je sens sans doute tort, c'est pas très grave. C'est en tout cas, je dirais, le consensus partagé aujourd'hui par une grande partie de la classe politique, des journalistes, et notamment des journalistes dominants, par un certain nombre d'universitaires. À tel point d'ailleurs que la plupart des mesures qui sont aujourd'hui destinées à ces quartiers ou à ces populations sont des mesures qui sont des mesures pénales ou des mesures coercitives. On l'a vu avec les lois, les peines planchers, on l'a vu avec les lois sur la récidive. Aujourd'hui, jusqu'aux fous vont être responsables pénalement. Bon. On a donc une espèce de fuite en avant, je dirais, dans ce sens-là. Une fuite en avant qui est telle d'ailleurs que quand on évoque par exemple la campagne de 2007, la campagne présidentielle de 2007, vous m'objecterez, mais dans 2007 on a très peu parlé d'insécurité.
Par rapport à 2002, oui, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Mais on en est arrivé à un tel point qu'il ne s'agit même plus d'en parler. C'est-à-dire que l'insécurité est partout. La manière de penser un certain nombre de problèmes sociaux, aujourd'hui, se fait à travers le thème de l'insécurité. Et je crois que ça, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, c'est le fruit donc d'un travail qui a duré une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, pour arriver à produire cette espèce de ça va de soi, sécuritaire, c'est-à-dire un ça va de soi, c'est ce qu'on pense spontanément, est-ce que pensent beaucoup de gens spontanément, pour penser ces quartiers-là. Et ça, je crois que c'est politiquement dangereux, parce que on voit les limites, je dirais très claires, je dirais des impasses sur ce thème-là. Et en plus, la force, je dirais, de ce « ça va de soi » tend à limiter les alternatives, tend à limiter qu'autre chose est pensable.
Oui, c'est une évidence qu'on ne remet plus en question.
C'est une évidence qu'on ne remet plus en question, et comme on l'a vu sur le libéralisme économique, on a l'impression que il ne peut pas en être autrement.
Voilà, il n'y a pas d'alternative.
Il n'y a pas d'alternative.
Là aussi, le système de Tina s'applique maintenant aux questions de délinquance, de sécurité et de ségrégation des quartiers.
Je crois qu'il est très fort dans cette dimension-là. C'est qu'on a 20 ans de politique libérale qui ont véritablement creusé de véritables fossés dans les milieux populaires. Aujourd'hui, les milieux populaires traversent des véritables situations difficiles. Leurs enfants également, en termes de précarité, en termes de logement, en termes d'accès à la santé, on le voit aujourd'hui. Et le consensus qui s'est généré fait que l'ensemble de ces problèmes sont aujourd'hui simplement des problèmes de sécurité. Eh bien non. Et je crois que cela, je dirais, c'est justement l'une des conséquences de ce projet-là, qui est liée à une réforme libérale de l'État. C'est-à-dire qu'il est très intéressant d'entendre Nicolas Sarkozy dire qu'il va mettre plus de moyens pour la police et sur la gendarmerie, c'est ce qu'il dit, et en même temps, on s'aperçoit qu'il va supprimer 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie d'ici 2009. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incohérence. On a une série de réformes de l'État, une série de réformes des systèmes de protection antérieure. La protection contre l'insécurité existentielle dont on pouvait parler auparavant sont aujourd'hui durement frappées par l'ensemble de ces réformes et on a une focalisation sur l'insécurité comme atteinte aux biens aux personnes. Je crois que là-dessus, voyez, on a un vrai paradoxe sur lequel il est intéressant et important de travailler si on veut être capable de trouver des alternatives politiques qui soient capables justement de garantir le bien-être de tous et pas simplement de rechercher à assurer la discipline de quelques-uns.
Merci de cette conclusion. Moi, j'en ferai une très courte, c'est que pour avoir animé de nombreux débats sur les questions de sécurité, d'insécurité, de cité, je trouve que l'émission de ce soir avait une sorte de... Enfin, était très révélatrice d'un basculement des mentalités, à la fois du discours officiel de la police, mais aussi du côté des jeunes ou des acteurs dans les cités, comme si tout le monde se rendait compte que sur certains aspects, on était au bord du gouffre et qu'il s'agissait vraiment de tout faire pour pas y tomber.
C'était une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à Laurent Bonelli. Son livre « La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité » est publié aux éditions La Découverte. À la technique, Philippe Duclos et Jessica Fouché. Réalisation, Yann Chouquet et Koy Nguyen. Assistante, Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Et enfin, le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.